Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bise, le podcast qui te propose d'analyser les bonnes stratégies business, communication et marketing digital. En format solo ou avec des entrepreneurs qui partagent avec nous leurs problématiques et leurs succès, je te propose d'embarquer à mes côtés pour un méga coup de boost pour ta marque et ta confiance. Au fait, moi c'est Floriane, lilloise de cœur et bretonne d'origine. Fondatrice de Le Boudoir du Biz, je suis consultante et formatrice en marketing digital, communication et en image de marque. Place à ce nouvel épisode et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bise. Aujourd'hui, on va parler d'oser. Vaste sujet qu'est celui-ci lorsque l'on est à son compte ou lorsqu'on prévoit de sauter le pas de l'entrepreneuriat. Oser quitter un CDI confortable, oser créer sa boîte, oser communiquer dessus, oser se montrer, oser assumer ses choix, oser afficher ses compétences et ses réussites. Notre vie professionnelle est, on peut le dire, intimement rattachée au fait d'oser, ou en tout cas pour ma part et celle de mes clientes. Mais à l'école, on ne nous apprend pas vraiment à oser, et encore moins lorsque l'on arrive dans le salariat. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi c'est parfois ou souvent difficile d'oser, alors que c'est primordial pour avancer avec plus de sérénité et développer nos business. Comment on fait pour oser lorsqu'on bloque, lorsqu'on procrastine pour éviter à tout prix de mettre en place une idée géniale qu'on a eue? Comment on dépasse ce genre de blocage? Comment on dépasse la peur du jugement, par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Toutes ces peurs. Et donc, qui mieux que Aude pour éclairer nos lanternes sur ce vaste sujet qui, je le répète, fait partie de nos quotidiens finalement. Toi qui as autant une approche scientifique que spirituelle, Aude, toi qui accompagnes tant de femmes sur ce sujet, merci beaucoup Aude d'être devant mon micro aujourd'hui et de me recevoir dans ce joli cocon lillois lors d'une courte escale française avant de repartir dans ton pays de cœur, le Népal. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous dire qui tu es et quel a été ton parcours?
Oui, bon allez, je me lance. Ben, par rapport à tout ce que tu viens de dire, je pense que ça pourra parler à pas mal de femmes parce que j'étais quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un qui s'estimait manquer de confiance en soi.
Ah, très bonne nouvelle, je ne le savais pas.
Et je me voyais absolument pas, c'était pas dans mon plan et c'est toujours pas dans ma tête réellement que je suis une entrepreneur. Et quand je me regarde, je me dis « Waouh, pourquoi j'ai fait tout ça ? Comment je fais pour... être face aux autres en live. Oui, c'est petit pas par petit pas et je vais essayer de partager ça. Alors, qui je suis? Parce qu'initialement, c'était ça.
Oui.
Donc je suis Aude du Croquet, et j'ai fondé Coach My Mind, qui veut dire donc coach mon esprit. Et donc, en fait, je suis quand même une experte de l'esprit et du cerveau. Voilà, donc j'ai un parcours neuroscientifique. Je suis allée jusqu'au doctorat. Et j'ai embrayé directement après mon doctorat vers du coaching. Mais du coaching qui intégrait aussi des notions de neurosciences. Donc c'était comme du coaching, tu vois, du coaching de comme on peut apprendre dans n'importe quelle école de coaching. Simplement, venez valider les choses avec les neurosciences, avec plus de compréhension.
C'est un parcours hyper atypique quand tu mêles la science et cette partie-là.
Ouais. Okay. Ouais, ça mêle le développement personnel et les neurosciences, sachant que tout le monde peut devenir coach, admettons, dans cette école et dans plein d'autres écoles, sans avoir mon bagage que j'ai eu.
Ouais. Hein.
Moi, ça me permet vraiment de voir les mécanismes de loin et surtout comment passer à travers pour bien écouter son intuition et oser et y aller, écouter son cœur. Voilà. Pour moi, c'est un outil, le cerveau. Et ça, j'ai compris. C'est un milieu quand même très, très particulier. Donc moi, c'était médical. Il y avait des médecins, des professeurs en neurologie. Il y avait des pharmaciens. Il y avait donc des scientifiques. J'avais un laboratoire hyper ouvert, tu vois. Et ça, c'était hyper intéressant. Mais je me suis sentie rapidement...
Là, tu fais le geste étouffé.
Ouais. Enfermée, même si à l'intérieur, je sentais que je devais me laisser guider dans cette aventure. Mais c'était pas plus longtemps que ma thèse.
Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui mène quelqu'un qui fait un doctorat en neurosciences au développement personnel? Est-ce que c'est issu de ton histoire d'enfant, de ton cadre familial, d'une rencontre? Comment on passe d'un truc hyper carré, hyper scientifique et tu t'as fait le signe un peu enfermé au développement personnel et à tout le cadre qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus spirituel finalement?
Ben, j'ai toujours eu une foi discrète.
D'accord.
J'ai toujours eu une foi discrète sans pour autant voir en apparence que j'avais cette foi en moi. Donc j'ai quand même quelque chose d'inné avec ça. Avec le côté, on va dire, plus donc, spirituel. Après, l'idée du coaching m'est venue, je crois que j'étais en licence, donc sciences de la vie de la Terre, initialement. Et j'avais vu une chronique à la télé, et j'avais vu coach de vie, et j'avais vu ce qu'il faisait. Je dis, génial, ça c'est trop bien, mais je suis trop jeune. Mmh. Et toi, il y a peu de temps d'ailleurs, il y a quelques semaines, je me suis dit, ça je prenais comme une croyance limitante.
Ouais.
Hein, trop jeune, tu vois, t'oses pas, etc. Mmh. Et ça, je conseille à chacun de pas, effectivement, de pas écouter cette croyance limitante. Par contre, je pense que finalement, c'était un message en moi, de mon intuition, me disant, attends encore, c'est pas le moment.
Ouais.
Ça, j'ai compris que finalement, c'était peut-être pas une croyance limitante, mais c'était plutôt mon intuition qui me parlait. Mm. Donc, petit à petit, je vois que dans mon passé, j'avais des intuitions qui m'ont fait tenir jusqu'au doctorat, admettons, et qui me servent aujourd'hui d'une certaine mesure qui parfois m'échappe encore, mais voilà. Donc ta question c'était oui comment ben oui j'ai comme une foi en moi subtile et simple,
ouais.
Tu vois, je suis jamais partie dans des trucs paranormaux par exemple.
D'accord.
Mais quand on me disait des sujets comme le Reiki, je crois que j'étais en première année de licence, on m'en avait parlé et j'ai trouvé ça génial, direct ça m'a parlé, tout de suite j'ai compris que c'était vrai.
Okay.
Tu vois,
ouais,
tout de suite. Et donc il y a des messages, des connaissances comme ça que j'entends et qui sont évidents. Je sais que c'est vrai.
Ok.
Voilà. Okay.
Une fois que tu valides cette école de coaching, il se passe quoi ?
En fait, quand tu as une formation de coaching, tu peux devenir coach directement et t'accompagnes les personnes pour avancer dans leur vie. Tu poses... Le coach, il a vraiment... C'est l'art du questionnement.
Le coach certifié, tu vas dire ?
Le coach certifié, oui.
Oui, précise-le.
Oui, le
alors,
coach...
Parce que, petite précision, oui. C'est que... je vais peut-être te laisser en parler, mais beaucoup de gens, aujourd'hui, utilisent le mot coach, mais la grande majorité des gens qui utilisent le mot coach ne sont pas formés ou certifiés. Est-ce que tu veux peut-être faire une petite parenthèse sur le sujet ? Parce que je trouve ça vraiment important.
T'as raison, c'est vrai. Bah oui. c'est pourquoi je suis pas... Ah, je suis à l'aise avec coach MindMind ou je suis coach de vie parce que ça reflète quand même vraiment ce que je fais. J'accompagne
clairement
les personnes dans tous les moments de vie. J'apporte de l'éclairage en général. Oui, mais par contre, on peut coacher, ça a un côté de motiver à côté pour quelque chose. Par exemple, pour la communication, pour le bien-être, nutrition. Voilà. Que le coach, le réel coach, on va dire ça, il apprend à bien questionner, à être neutre. Et ça, je regrette un peu ça, je t'avoue, et j'avais même envie de faire une formation là-dessus, mais je me suis dit, il n'y a personne qui va venir. Les thérapeutes, les personnes qui sont dans le bien-être, tu vois, en général, qui veulent accompagner les personnes, manquent souvent de neutralité, et c'est très important, tous les mots qu'on emploie pendant les séances, parce que ça crée une mémoire dans la tête des gens, et ils peuvent s'en souvenir à vie. Et si tu dis, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être ? Bon, on va jamais dire tu es nul. Il faut que tu fasses ça. Paf, la personne pourra le prendre pour elle.
Ouais.
À part que tu es en train de créer encore une obligation. Et c'est quand même pas le but du coach. Okay. Il reste neutre. La posture neutre, elle est pas facile à apprendre. Mais la formation de coach, une bonne formation, t'apprends à être coach et donc à être neutre, poser les bonnes questions. Et ça aide en général pour toutes les spécialités que tu veux, dans lesquelles tu as envie d'être.
D'accord, ok.
Ouais, ça c'est un grand liant.
Merci pour cette précision qui me paraissait vraiment capitale, on va dire.
Oui.
Tu valides ton école et du coup, tu disais, tu te lances dans l'accompagnement individuel directement, c'est ça ?
Oui, moi j'ai...
Sur Lille ?
Sur Lille. D'abord, j'étais dans des coworking.
Ouais.
Donc, si on avait peut-être qui vont m'écouter, ils vont se dire... Ouais,
tu peux leur faire coucou.
Haute, haute dans des coworking pendant je ne sais plus combien de temps. Mais après, j'ai eu un bureau aussi privatisé dans un coworking. Ouais, j'ai évolué petit à petit. Je me suis dit, tout de suite formée après à autre chose, à une machine.
Ah oui, c'est vrai, exact.
Qui permettait de mesurer, qui permet toujours d'ailleurs, de mesurer la forme mentale, émotionnelle et physique, et donc énergétique. Et je pouvais avoir un bilan vraiment de la personne, et c'était vraiment extraordinaire. Hein. C'est juste que, vu que j'ai changé de vie, j'ai fait des choix et je m'en suis séparée. Et donc, c'était aussi une porte d'entrée pour venir me voir. C'était d'avoir un bilan sur soi, en ayant la fréquence de la personne. Mais en général, quand même, j'étais là pour plutôt l'accompagnement de la personne. Donc, voilà, j'étais coach de vie. Je parlais de confiance en soi. Je parlais de tous ces sujets qu'on va sûrement aborder.
Et après, tu as une grosse évolution dans ta vie pro. Donc, tu as eu aussi ton cabinet à la Madeleine, quand même.
Oui.
Et après, t'avais oublié.
Ouais.
Ah oui. Et après, t'as enchaîné et t'as vraiment donné un autre rebond sur ta carrière, même si je sais que t'aimes pas que j'emploie ce type de mots parce que tu t'y plais pas, tu n'étais pas très à l'aise.
Non, mais si.
T'as donné un rebond et t'as proposé d'autres types d'accompagnement. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu fais aujourd'hui et sur quel type d'accompagnement? Et puis, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Parce que elle a quand même sacrément évolué.
Ah oui, voilà, je suis... Ouais, c'est différent. bon, juste d'où je viens, d'abord, je recevais en one-to-one les personnes à mon cabinet. Et ensuite, il y a eu un switch tout doux en ligne. J'ai commencé à aller sur Instagram, en fait.
Ouais.
J'ai commencé à faire mes messages de la semaine,
oui,
le dimanche, par écrit. Et ensuite, en ligne, en live, au confinement. Voilà, donc, et au premier confinement de, voilà, qu'on connaît tous. Et ensuite, je me suis formée au yoga traditionnel, d'accord? Parce que je voulais apporter pour moi une nouvelle dimension de compréhension, pas forcément devenir prof de yoga, tu vois, c'était vraiment pour moi. Et rapidement, j'avais envie de faire une formation en ligne. Donc, ça m'est venu quand j'étais au Népal. Je savais que je devais le faire avant, mais il me manquait des trucs. Il me manquait des trucs, je sentais que je ne pouvais pas le faire. Donc j'ai attendu comme un certain temps après ma première intuition de faire cette formation. Et là, oui, donc je l'ai fait. Je suis revenue au Népal un an après. J'ai fait d'autres vidéos de yoga au Népal. J'ai fait des vidéos en France en voyageant, hein, parce que moi je suis comme une pèlerine qui va d'endroit en endroit qui nous font du bien, ressourçant. J'ai fait des vidéos dans ces cadres-là, au Népal aussi. Et là, ça a été quand je suis revenue de mon deuxième voyage du Népal, avec mes vidéos pour finir ma formation Accès à une vie épanouissante. Là, c'est là que tout a changé. En fait, tout de suite, quand je suis arrivée au Népal pour faire mes vidéos, j'ai dû d'abord faire face à un raz-de-marée émotionnel, de prise de conscience immense, que je sentais arriver. Depuis un an, depuis mon
quand
premier voyage.
Quand t'étais en France.
Ouais, j'ai fait un premier voyage, je me suis formée au yoga et j'ai eu un an après, je suis repartie au niveau professionnel. Et pendant tout ce temps-là, j'ai fait un gros travail de fond. J'ai dit, oulala, il y a un truc qui va plus. Et j'ai essayé de vraiment être sage et d'être... Parce que je suis réfléchie quand même, je suis posée, tu vois, je suis pas impulsive. J'écoute mes intuitions, mais je suis pas impulsive. Et j'ai dit, bon, d'accord, une chose à la fois, je fais mon travail, je vais faire ce qui me guide. Et là, après, après mon deuxième voyage au Népal, j'ai sorti tout de suite ma formation. Et je savais aussi que j'allais revenir au Népal.
OK.
Et donc là, évidemment, j'ai eu un gros travail encore sur moi, parce que forcément, quand on est dans ce... Enfin, non, pas forcément, mais... Pour moi, quelqu'un qui véhicule du développement personnel ou de la spiritualité doit être d'abord praticien pour lui-même.
Bien sûr.
Et ça, c'est ce qui se passe aussi en ce moment. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, tout d'un coup, veulent aller dans le bien-être ou la spiritualité, mais qui ont une vie qui est figée. Et en fait, ils veulent changer de vie parce que dans le système dans lequel ils sont, ils ne se sentent pas bien, tu vois. Et ils partent là-dedans parce que ça paraît génial, ça paraît... être utile pour tout le monde, mais il faut d'abord vraiment expérimenter en soi, tu vois.
Oui,
c'est clair et net. Donc voilà, donc moi j'ai dû travailler sur le détachement énormément, le renoncement quand je suis arrivée au Népal. Détachement, j'ai plus d'appart. Je voyage avec peu d'affaires. Je fais des rencontres. Des petites rencontres, petites, je veux dire pas beaucoup, mais qui marquent et qui me font grandir. Et dès que je sens qu'il y a un élan en moi pour continuer à entreprendre, là tout d'un coup je sens que je dois faire une nouvelle formation ou je sens que je dois faire rouvrir à des séances de coaching, je le fais. Voilà, je suis tout le temps maintenant, j'essaie d'être au feeling. Je dis pas que j'ai pas peur du manque, c'est clair. Des fois, ça me prend et j'ai vraiment peur. Je me dis comment je vais faire financièrement. Mais j'essaie d'agrémenter ma confiance en la vie. Et ça, wow, c'est ce que j'apprends avec le Népal. Ouais, j'ai dû faire un énorme, énorme pas là-dessus.
En quoi ça te permet d'apprendre cette notion-là au Népal et pas en France? Alors toi, ça va te paraître évident, mais moi qui ne connais pas le Népal, ou juste par photo, qu'est-ce qui te pousse au Népal à passer à l'action plus facilement ou à faire davantage confiance à ton instinct ou alors à travailler plus sur toi?
Alors, je vais être totalement transparente. Le Népal, je l'avais en moi depuis longtemps.
D'accord.
Sans connaître du tout le pays, je ne savais même pas la capitale.
Ok.
Et un jour, j'avais eu cette ouverture de « Allez, je vais me former au yoga là-bas. C'est le moment pour moi d'y aller là-bas. Ça y est. J'y pensais depuis que j'étais ado. Hein. »
D'accord.
Je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, j'avais le Népal, je ne savais pas ce que c'était. Je suis attirée par l'Asie et j'y suis allée. Bon, déjà, donc en fait... quand je dis que je vais être transparente, c'est que je pense que c'était vraiment engrammé en moi. Il y a quelque chose, j'ai même dit avant mon premier voyage, je vais chercher une partie de moi là-bas. Une part de moi là-bas. Je ne savais pas ce que c'était, ce que ça voulait dire. Hein. C'est un truc qui venait de moi. Et j'ai compris, et j'ai pas compris à quel point c'était le cas.
T'as écouté ton instinct et ton instinct t'a guidé vers le Népal et toi, t'y vas.
Ouais.
Donc c'est incroyable.
Mais c'est pour tous, je pense que là, c'est ce que moi, c'est loin.
Ouais.
Mais il y a des personnes...
Non, mais moi, demain, mon instinct me dit d'aller à Melun, je ne vais pas à Melun. Alors, je vais donner un exemple plus concret. Plus sexy, mon instinct m'incite à aller dans les Alpes pour faire une retraite ou une pause dans ma vie, je n'y vais pas. Donc c'est quand même incroyable que tu fasses autant confiance à ton instinct.
J'ai mis du temps à le manifester.
Oui, d'accord.
Parce que j'avais très peur d'aller toute seule. Je parlais pas anglais, vraiment très très mal, très mal. Et tout d'un coup, j'ai dit, ok, il y avait plusieurs marqueurs qui a fait que je pouvais y aller et des petits signes.
D'accord. Et un contexte aussi qui te le permettait aussi.
Ouais. C'était, on va dire, il y avait plusieurs choses qui ont fait que j'avais plus envie que de peur, plus d'opportunités. Donc j'invite à chacun dans ce sujet-là. C'est important d'avoir un environnement qui convient à leur âme, à leur être, pour se déployer. Sauter les barrières de « oui, mais il faut être en ville pour réussir », par exemple, ou être en campagne pour réussir et je ne peux pas être en ville, parce que tu vas déployer quelque chose en toi, tu vas rayonner, tu vas avoir une résonance avec cet endroit. Donc ça peut être la ville à côté, comme changer de région, comme changer de continent, tu vois.
Ouais.
Et tu sens qu'il y a une complétude, tu te sens à ta place. Et okay, ça aide forcément pour ton entreprise. Il faut faire confiance à comment ça va prendre le tournant. Ouais. Donc, mon entreprise, clairement, suit mon évolution. Et tu vois, je commençais le en ligne et j'ai senti que je devais faire cette formation en ligne. Et maintenant, ça me permet de continuer à faire mes services d'une autre manière, mais loin.
Oui, et de vivre où tu veux, mais de continuer à faire grandir ton entreprise.
Et donc oui, après le Népal...
Et puis on va pas se le cacher, c'est un vrai sujet, la formation en ligne. Moi je le vois aussi au quotidien, c'est-à-dire que c'est hyper enrichissant d'accompagner individuellement, c'est aussi très fatigant. Et à un moment, on est limité par le temps parce qu'on vend notre temps. Et c'est aussi, et il faut le dire, plus rentable d'accompagner des groupes, au-delà du fait qu'il y ait de l'effervescence quand c'est des formats de groupe, mais sur la partie en ligne, c'est aussi plus rentable parce qu'on ne vend plus notre temps, on vend nos compétences. Et c'est vraiment un format qui est aussi intéressant et encore plus adapté à ta vie aujourd'hui, pour le coup.
Oui.
Parce que tu bosses d'où tu veux et tu peux continuer à faire grandir ton entreprise.
Ouais. Après, il est évident que le Népal, il y a aussi quand même quelque chose. Hein. C'est en moi, mais il y a une sérénité, c'est un lieu de paix en général, d'accord ? C'est beaucoup plus calme que l'Inde, par exemple, et c'est pas du tout comme la Chine, mais par contre, ça ressemble au Tibet, donc c'est-à-dire c'est très calme. Bien sûr, hein, il y a des trucs qui vont pas non plus, mais c'est pas pour rien qu'il y a plein de maîtres sages qui se sont installés là pour méditer, pour grandir. Je le sens, ça agit sur moi aussi.
Ok.
Ouais. Donc forcément, je propose aussi donc, des voyages une fois de temps en temps, quand je le sens, pour emmener des personnes pour qui ouvrent leur esprit. Parce qu'en fait, ça enlève plein de trucs, plein de freins qu'on a ici et on prend conscience sur certaines croyances aussi.
Oui, donc c'est ça. J'ai vu que tu organisais des séjours à l'attention a priori des gens qui vivent en France, plutôt des femmes, au Népal.
Ouais, alors c'est pour tout le monde, homme-femme quand même.
Et
mais
t'as des
j'ai
hommes
quand même. J'ai souvent des femmes, oui. Mais ouais. J'ai aussi parfois. Alors c'est plus avec Kushvendra, qui est donc mon partenaire aussi pour tous ces sujets-là. Ouais, qui va amener peut-être plus d'hommes.
Ok, ouais. Ouais.
Mais oui.
Ça, c'est donc c'est des courts séjours. Donc aujourd'hui, t'as tes formations en ligne, les courts séjours.
Oui.
Tu fais encore de l'accompagnement individuel ou pas ?
Ouais, quand on me demande,
d'accord.
Je fais.
Donc c'est plutôt des personnes qui ont déjà travaillé avec toi.
En fait, je veux dire tout d'un coup, bah là je suis posée au Népal, je peux avoir des rendez-vous. Ou alors on m'envoie un message et c'est souvent des personnes que j'accompagne depuis un moment ou que j'ai eu une fois il n'y a pas longtemps. Mais j'ai aussi beaucoup de bouche à oreille.
Ah ben oui. Mais donc, on ne se rend pas compte de la puissance du bouche à oreille.
Ouais.
Enfin, moi je trouve ça fou. Quand je me suis lancée... En tant que communicante et marketeuse, jamais j'aurais pensé que le bouche à oreille pouvait être aussi puissant. Et je le vois aujourd'hui, moi, c'est bien 60% de mes clientes qui viennent par le bouche à oreille. Oui. C'est quand même génial.
Oui.
Mais de toute façon, c'est flatteur aussi pour toi. Oui. Parce que quand on est satisfait, quand on a travaillé avec quelqu'un, en tout cas sur ses pratiques liées au bien-être, etc., et qu'on est satisfait, on en parle forcément aux autres.
Ouais.
Donc c'est flatteur pour toi parce que ça veut dire qu'on est content.
Ouais.
Quand les gens viennent et te disent bah, « Moi, j'ai une copine qui t'a vue, ça lui a fait un bien fou, j'aimerais bien te voir aussi. » Quelle meilleure page de pub que ça, pour l'ego et pour l'efficacité.
Ouais.
Donc c'est génial, franchement.
Chapeau.
Je ne suis pas surprise. Non, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai vu Aude plusieurs fois sur des aspects pro et perso. Et évidemment, je fais partie de ces gens qui ont été... qui font partie de son groupe de fans et de groupies. C'est vrai, elle est modeste, mais on est pas mal à être des groupies. Revenons du coup à nos moutons.
Oui.
Donc aujourd'hui, on peut dire que ta vie est plutôt au Népal et entre le Népal et la France.
Ouais.
Que ton activité aujourd'hui, c'est des formations en ligne et des séjours sur place. La thématique des formations en ligne aujourd'hui, t'as quoi ? T'as accès à une vie épanouissante que j'ai testée et validée grandement. Et quoi d'autre ?
Et en fait, j'en ai fait une autre petite l'été dernier. Boost de vie.
Oui.
Voilà. Donc pour l'instant, elles ne sont pas accessibles là au jour du podcast. C'est dès que je le sens, je fais. Et là, j'ai refait des vidéos au Cambodge, parce que je suis allée au Cambodge. Il y a eu quelque chose aussi, un genre d'appel là-bas. Et j'ai fait quelques vidéos. Donc là, il faut que je mature le truc. C'est-à-dire que je suis obligée de faire avec mon rythme. J'arrive pas à délivrer quelque chose comme ça.
C'est le rythme qui te correspond, de toute façon.
Donc je dis à chaque fois, je vais faire une vidéo, elle sort par exemple en janvier. Et en fait, ça se passe pas. Donc ça, je suis un peu frustrée avec ce genre de choses. Il faut apprendre la patience. Donc là, il y a accès à une vie épanouissante qui est pour moi... une grande base massive. Je pense que là, il faut que j'améliore intégrer la routine dans sa vie. Je crois que pour celles qui ont pris en cours de route, donc je vais leur rendre peut-être un peu plus autonome cette formation-là. Et boost de vie, là, je suis en train aussi de maturer un sujet parce que c'était changer les petites choses du quotidien, par exemple, améliorer la qualité de son eau, quels sont nos besoins, nos relations. C'est des sujets vastes, mais très importants pour vraiment améliorer la qualité de vie au quotidien, pour tout le monde, tu vois.
Ok, c'est beau.
Ouais.
Félicitations.
Ouais. Après, je fais des retraites aussi, parfois.
Oui, c'est vrai.
En France.
D'accord, ok. Ouais. Et t'en avais fait une à Chartres ?
Chartres, ouais.
D'accord, bah, merci pour tout ça. On va passer dans le vif du sujet aujourd'hui. Je voulais aussi, au-delà du fait de savoir comment t'avais construit Coach My Mind, où est-ce que t'en étais aujourd'hui, il y a un sujet qui est très récurrent avec mes clientes et avec moi d'ailleurs, hein, je fais partie des personnes qui ont ce souci, entre guillemets, et je pense d'ailleurs que c'est peut-être même le cas de toutes les femmes entrepreneurs et peut-être même le cas de tous les entrepreneurs, c'est qu'à un moment ou à un autre, ou tout le temps, c'est vraiment difficile d'oser. Alors j'ai donné quelques exemples en introduction, oser passer à l'action, oser entreprendre, oser quitter le confort du salariat, voilà. quels sont les sujets que tu as le plus rencontrés auprès des femmes que tu as accompagnées? Et je précise bien des femmes parce que je pense que c'est pas vraiment les mêmes problématiques, quoique. Ouais. Et particulièrement professionnellement.
Alors, faire la différence, le distinguo entre femmes et hommes, c'est vrai quand même, j'ai bien remarqué. Hein. Mmh. Les hommes, ils vont plus vite en action, parce que plus vite en action, et c'est une généralité là, attention, mais ils vont aussi moins s'arrêter pour se poser et se remettre en question. Alors, ils vont le faire, hein. Mais la femme va beaucoup se poser de questions qui fait qu'on n'ose pas. Voilà, donc c'est pourquoi j'explique ça. Ouais. Donc, il y a un juste milieu. On a tous ce côté aussi, ce masculin en nous pour mettre en œuvre. J'ai remarqué que les femmes n'étaient pas forcément au bon endroit l'action. Tu vois ? Donc, par exemple, elles vont passer beaucoup de temps à se donner des obligations familiales qu'elles pourraient partager, admettons, pour pouvoir laisser la place justement à leur intuition. La femme d'aujourd'hui, en général, a du mal à écouter son intuition. Ou alors les femmes qui veulent entreprendre, elles ont une intuition tellement forte, sans qu'il y ait un élan qui les mène vers quelque chose, mais elles n'osent pas parce que, ben, oui, on peut manquer d'argent, ça c'est le cas. Souvent en France, on me dit, la condition pour pouvoir changer de voie, c'est d'avoir la rupture conventionnelle.
Oui, bien sûr.
On me dit tout le temps. Je peux pas passer à côté.
Et on peut le comprendre.
Oui, oui, on peut tout à fait le comprendre. C'est clair, c'est une sécurité. Et souvent, ce que j'ai à... Je saute ce verrou-là, parce qu'en fait, si on a que ça comme idée, on se met une pression inutile là-dessus. Alors moi, je dis, voilà, si ça doit venir la rupture conventionnelle, ça viendra. Mais il y a plein de possibilités. Parce que si c'est ton chemin de faire cette entreprise... Ne t'inquiète pas qu'il y a d'autres sources encore qui existent. Et la rupture conventionnelle, tu ne perds rien à essayer. Et tu verras si c'est ça. Si c'est pas ça, tu verras qu'il y aura d'autres ressources aussi, si vraiment c'est ça ta voie.
Okay.
Donc ça, c'est important de lâcher la pression sur la condition ultime d'avoir, par exemple, la rupture conventionnelle, par exemple. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent. D'accord. Donc, vous voyez que tout est possible, tout est disponible. Il y a des ressources. Vous pouvez aussi avoir de l'aide autour de vous. Quels sont les autres sujets que j'ai? Souvent, j'ai des personnes aussi qui ont une idée et c'est très éparpillé.
Oui. Hein?
Elles veulent plein de choses parce que c'est le démarrage. Donc là, je suis obligée de faire tout un tableau de nuages de toutes les idées.
Que j'ai fait avec toi, d'ailleurs.
Voilà, tu vois, ça c'est quelque chose... Elle, entrepreneuse, je fais pas ça tout le temps, c'est vraiment entrepreneuse. entrepreneuse, je sais pas. Voilà, et après, on fait confiance que là où la petite graine doit germer, va germer. Et ce qui est important, c'est de... on a parfois une idée et elle est grande, cette idée. Et on veut aller tout de suite là. Alors, surtout tester avant. Ça, on va le dire, on va l'entendre souvent. Hein. Mais et oser, tout est possible, mais pas avec tous les paramètres que tu penses faire, avec lesquels tu penses faire. Par exemple, tu veux un lieu tout de suite, tu veux trouver une associée ou un associé, tu veux, je sais pas moi...
Gagner le même salaire que quand on était dans le salariat,
voilà.
Tout
donc,
de suite.
Donc d'abord, essaie et tu vas voir, ça va te permettre de faire un retour sur ce que tu ne veux pas et de savoir ta cible. Donc, faut oser. Par exemple, avant de faire ma formation en ligne, j'ai eu tout d'un coup cet élan de faire les ateliers de Wonder Woman. Donc, c'était des ateliers sages avec tout un process. Et là, donc, j'ai accueilli des femmes. J'avais pas d'espace le soir parce que tout ferme le soir. Et je vais faire dans le hall de mon bureau. Voilà, j'ai demandé au propriétaire, il a dit oui. C'était un peu... je préparais toutes les chaises, etc. Mais en fait, ça s'est très bien fait. J'ai reçu pendant plein de soirs des femmes. Et ça m'a préparé, je suis sûre, pour ma formation en ligne. Parce que la formation en ligne, je l'avais déjà en tête.
Par petits pas, donc.
Par petits pas. Faites, ouais. Et n'attendez pas que tout soit parfait. Essayez des petits formats d'abord et ça va construire la confiance en soi et on ose de plus en plus. Et souvent l'idée vient, tu vois, l'idée elle est là et il ne faut pas l'arrêter. Ça peut être original, ça peut être très simple.
Très très bonne leçon pour le coup.
Ouais.
C'est que du coup, selon toi. Et je crois pouvoir dire que je suis vraiment sûre que tu as raison, puisque je vis vraiment ça en ce moment. C'est que quand tu as un objectif final qui te paraît un peu démesuré, dans le sens où tu n'oses pas aller directement vers cet objectif final, la solution, c'est d'oser des formules ou des formats intermédiaires pour gagner confiance en toi, voir si ça fonctionne, si tu es bien aussi sur ces formules intermédiaires ou ces formats intermédiaires. Toi, pour le coup, c'était un format intermédiaire pour avancer et du coup construire ta confiance en toi et du coup, à l'issue, avoir cet objectif et pour ton cas, ta formation en ligne. C'est bien ça?
Ouais. Et ça apporte aussi autre chose. Moi, ça m'a donné de la matière pour discuter sur Instagram, naturellement. Et donc, ça te rend soit plus visible et ça anime. Voilà, ça t'anime avant de proposer un plus gros projet, admettons.
Ce que tu veux dire, c'est que les femmes que tu as rencontrées dans le cadre de tes ateliers Wonder Woman t'ont glissé des sujets que tu as pu aborder par la suite sur Instagram ou tes différents
sujets. Oui, en fait, je disais, je faisais un événement et les personnes disaient « Ah, c'est actif !» Tu vois. Et il y a plein de personnes qui me disaient « Oh, tu fais plein de choses !» Alors, je n'avais pas l'impression de faire plein de choses. Je ne faisais pas des événements qui apportaient, par exemple, des clients. Voilà. Moi, je devais me faire connaître à Lille à l'époque. Ça donnait aussi de l'activité, du mouvement, de la vie. Et donc, j'ai beaucoup grandi avec ça. Donc ça, c'est un grand conseil que je peux donner. Et surtout, quand vous avez des idées, essayez de le mettre en place. Et si ça ne se met pas en place, c'est parce que vous devez apprendre quelque chose dans le processus avant que ça se mette complètement en place. Tu vois ?
Ouais.
Ça, on peut avoir un sentiment d'échec quand on n'a pas été au bout d'un petit ou grand projet. Mais pour moi, avec ma philosophie et ce que j'ai appris, tu as forcément appris quelque chose qui va te servir pour plus tard. Tu ne sais pas quoi, mais fais confiance. Donc, j'ai failli collaborer tout au début sur une chaîne YouTube, aussi pour une formation entrepreneur. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Mais je suis sûre que ça m'a servi pour plus tard. Et sur le coup, j'étais frustrée, mince, j'ai loupé peut-être quelque chose. Mais maintenant, je me dis heureusement. Parce que ça ne me correspondait pas vraiment, mais j'ai appris plein de choses.
Ok. Y a d'autres sujets récurrents que tu vois auprès des femmes que tu accompagnes, femmes entrepreneurs?
Alors, si tu as des idées, n'hésite pas. Si tu veux dire, est-ce que tu as ça? N'hésite pas.
La peur de l'échec.
Ouais.
Le fait de ne pas oser parce qu'on a peur de se planter et du coup, on n'ose jamais.
Ouais, il y a plusieurs choses. De un, il faut savoir que le cerveau, il apprend quand on fait un retour sur nos erreurs.
Ok.
S'il nous arrive jamais d'échec ou d'erreur ou de bug, on n'apprend pas. On avance sans de retour, on va jamais s'en rendre compte.
Vous voyez, elle dit comme moi que l'échec, ce sont des expériences.
Ah ben, échec, c'est expérience. Ouais. Ça, en fait, on va dire, c'est une erreur. Qui te permet de vraiment de réajuster quelque chose dans ta vie. Alors ça, c'est important. C'est que, admettons, si tu fais... il y a deux façons de voir. Il y en a une, pour moi, tout est juste, tout ce qui t'arrive, ça te permet d'avancer. D'accord ? Après, il y en a qui restent tête baissée. Et pourtant, ils savent bien que ça ne va pas. Là, ça devient un échec, on va dire un échec, parce qu'en fait, on ne s'arrête pas en disant « Mais non, j'ai quelque chose à changer, j'ai une alerte. » Je dois rediriger mon activité. D'ailleurs, ça va peut-être faire changer un peu l'activité. Parce que la vie est bien faite. C'est que là, tu vas comprendre ce qui ne te va pas, ce qui va. Et on va toujours chercher à rectifier pour que ça soit juste pour toi, que tu ailles sur ton chemin. Donc, Dieu merci, il y a des fois, tu peux voir les bugs. On va dire des bugs. Et ça te permet de raligner et d'aller là où tu es le plus juste. Peut-être que tu n'avais pas pensé ça, à ça. Mais cet événement t'a permis de comprendre que il y a peut-être un petit virage à prendre et dans ça, tu seras meilleur.
Le challenge, là, c'est d'être en mesure de prendre du recul.
Tout à fait.
Et comme tu parlais d'avoir la tête baissée, c'est vraiment ça, de peut-être sortir un peu de la scène et de se dire, OK, qu'est-ce que l'univers me transmet.
Tu t'entraînes ton esprit à te dire, si je vis ça, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Et c'est sûrement plus profond que l'apparence. Donc ça si on a du mal à voir plus haut, parce qu'il faut prendre au moins une double hauteur. Donc par exemple, moi, je vais aider à voir quel est le sens, qu'est-ce que tu dois vraiment apprendre de ça, si on a du mal. et voir comme une opportunité de améliorer la chose, la situation.
Ok.
Donc ça, c'est un état d'esprit où on voit le verre plutôt plein, parce que c'est le cas, et c'est même plus que ça. C'est une opportunité pour toi de rectifier et d'apprendre et d'être encore plus sage. Dès que je suis en période de difficile, où je suis challengée, il y a des choses qui se passent, je me dis que je sais que je vais ressortir, mais carrément plus grande. J'essaie de me dire ça. Au début, il y a les émotions, il faut les laisser passer, tu vois. Tu dis, bon, il se passe quelque chose, j'ai une émotion, donc il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, tu te dis, mais je vais forcément en ressortir très, très grande, et ça prendra le temps que ça doit prendre. Et je sais qu'après, ça va être aligné, encore plus aligné à qui je suis.
Ok. T'es en train de nous faire une leçon de vie incroyable. Pour remettre en contexte, j'ai les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, comme dans les dessins animés. Ok, nous prenons.
Et dès que ça va pas, vous dites, ok, ça va pas, en gros. Mais là, il y a quelque chose que soit j'ai pas encore vu, ou soit j'ai en face de moi vraiment une solution que j'ai pas envie de voir, mais que je dois prendre. Tu vois, il peut avoir ça. Donc tout est juste. Vous allez être encore plus grande et plus sage après ça. Heureusement, on respire entre deux, hein. Mais c'est comme ça. On ne peut pas dire, hein, la vie c'est haut et bas. Mais les bas, ils ne sont pas des bas où on fait rien et on ne devient rien. C'est des bas souvent qui nous amènent vraiment une lumière incroyable
et qui nous font grandir.
Ah ouais. Ah oui, c'est exceptionnel.
Ok. Ah,
ces moments-là.
Est-ce que tu as aussi, je pense que oui, la peur de ne pas être à la hauteur ou le syndrome de l'imposteur? C'est peut-être le sujet que tu as le plus.
Oui, oui, j'ai pour moi aussi.
Oui, je me doute, car tu es un humain, malgré qu'on puisse se dire que tu es une warrior, tu es aussi un humain.
Alors, là, ce qu'on peut se dire, on rééduque son esprit, hein, tu vois, parce qu'on peut vite partir dans la mentalisation. Donc, syndrome de l'imposteur, c'est ça? Et de pas à la hauteur. Alors là, on est très nombreux sur cette planète, d'accord? Et si tu es guidé à partir sur cette activité-là, ou à faire ce genre de choses en général, et que tu dois être au service de quelqu'un, d'une personne ou de plein de personnes, il y aura toujours des personnes qui seront en résonance avec toi, et tu vas apporter des solutions, ou quelque chose, une énergie pour ces personnes-là. D'accord ? Donc, dis-toi que si tu ne te sens pas à la hauteur... Moi, je le vois plutôt où il y a des personnes qui ont la même fréquence que toi, qui ont besoin de ta fréquence pour se réajuster. Et donc, tu vas aider ces personnes-là. Admettons, dans ta compétence, tu es tout au moins à un niveau intermédiaire. Intermédiaire ou avancé ou expert ou maître, tu vois. Mais tu as des personnes débutantes qui vont venir te voir. Donc, tu auras toujours à apprendre des choses. Tu n'as pas besoin d'être maître pour apprendre des débutants. Donc, tu auras toujours des choses à apporter. Si tu démarres, admettons, une activité, tu te dis, oui, mais je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Et bien, tu as toujours assez pour quelqu'un. Et cette personne, elle aura besoin de ton énergie de débutant dans ton activité, admettons, pour grandir.
Oui, et ça fait écho à quelque chose d'important, selon moi, c'est de ne pas se comparer à des personnes qui sont au chapitre 25 de l'entrepreneuriat, alors que toi, tu es au chapitre 2, parce que ça te fait plus de mal qu'autre chose. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille quand j'ai mes clientes qui se sentent pas bien par rapport à d'autres personnes qui ont la même activité, mais qui ont une plus grosse communauté, qui sont plus visibles, qui génèrent plus de chiffre d'affaires probablement. C'est de prendre du recul et de se dire « Oui, mais elle a commencé il y a 5 ans. » Donc, il y a 4 ans, elle était à mon stade, en fait. Et l'autre truc aussi, c'est quand on suit des personnes qui ont la même activité que nous et qu'on se rend compte que certaines, en tout cas, nous créent une espèce de boule au ventre, ben, en fait, désabonnez-vous. Juste, ne vous faites pas du mal comme ça, ça ne sert à rien. Suivez des personnes qui vous inspirent, qui font probablement la même chose que vous, mais surtout pas de la même manière et pas avec la même personnalité. Et même si c'est le même contenu, il n'y aura pas les mêmes énergies, t'en parlais juste avant, il n'y aura pas la même personnalité, il n'y aura pas le même positionnement. Moi, sur mon cas, il y a des femmes qui sont très working girl. Je souris parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Il y a des nanas qui ont un positionnement très working girl, qui vont être en tailleur, très pimpée, voilà, très girl boss finalement. Moi, je suis pas du tout sur ce positionnement-là. Et du coup, je me retrouve comme ça aujourd'hui aussi, à me dire, mais ça sert à rien que je me compare à elle, parce qu'on n'attirera pas les mêmes personnes.
Tout à fait.
Et quelqu'un qui cherche un graphiste va, par exemple, chercher un graphiste, pas que pour ses compétences, mais aussi pour ce qu'il transmet à travers sa façon de communiquer. T'es d'accord avec moi?
Ah bah oui.
Bah j'espère, parce que c'est toi qui me l'as appris.
Oui, oui. Bah non, mais là, on a l'impression que c'est toi qui l'as... Tu l'as expérimenté. Donc oui. Quand tu le dis, ouais. C'est pas moi... Enfin, c'est pas
non, bah tu m'as libérée sur ce sujet-là, clairement.
Mais concrètement, vraiment, tu vas attirer les personnes qui ont besoin de toi. Donc, tu auras peut-être besoin de ces personnes aussi. Donc, fréquence similaire. Et effectivement, donc... Une personne qui est, on va dire, girl boss, stylée, enfin, qui a cette image-là, qui veut faire transparaître que c'est important d'être stylée, admettons, pour être girl boss, va attirer des personnes qui veulent devenir ça.
Tu vois ? Tout à fait.
Donc, c'est pas la même tension, c'est pas bien ou mal, c'est simplement, il y a des personnes qui ont envie d'avoir, de transparaître à travers ça. Donc, c'est clair, on choisit avec qui on travaille. Donc là, je pourrais te dire, pareil pour les thérapeutes. Hein,
oui, bien sûr.
On choisit l'énergie et pas vraiment... Par exemple, on choisit la méthode, évidemment. Mais le plus important, c'est le feeling avec la personne qui transmet.
Tellement.
Mais c'est parce qu'il y a des personnes, par exemple, alors dans mon domaine, hein, on va me dire... j'ai déjà essayé le coaching ou l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Eh bien, ils vont dire, oui, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Bah oui, mais en fait, c'est pas tellement la technique, c'est plutôt la personne derrière qui te convenait peut-être pas, ou qui te convenait parce que tu devais entendre ce qui s'est passé et ça t'a peut-être pas plu et t'étais pas prête à l'entendre, mais il fallait avoir, je sais pas, cette expérience-là. Mais en tout cas, oui, c'est en fait tu attires ta communauté, puis c'est tout, et il y a de tout pour tout le monde. Donc il n'y a pas une histoire de hauteur, il y a plutôt une histoire de fréquence où on est sur les mêmes plans de certaines personnes et tu vas attirer ces personnes-là. Et ça veut rien dire aussi les années d'expérience. Alors oui, il y a l'expérience, mais non, c'est plutôt à l'instant présent quelle fréquence tu as. Voilà, c'est tout.
Ok.
Ouais.
Ok.
Donc ça enlève le syndrome aussi de l'imposteur quand tu te dis que de toute façon tu pourras aider d'autres personnes, une ou plein. Mais tout est juste, on n'a pas plus de valeur en aidant, admettons, 1000 personnes qu'une personne. On ne sait pas.
Et ce qui est beau quand on est aligné avec sa façon d'être professionnellement, c'est que, et j'ai pu l'expérimenter par moi-même pour le coup, c'est qu'on attire des gens qui nous ressemblent. Ça, c'est quand même incroyable.
Enfin, bah oui.
Pour ma part, alors je dis souvent que c'est de la chance et tu vas peut-être me recadrer en disant non, mais enfin me recadrer façon
mais
de parler.
Mais moi j'ai pas de nom ni oui.
Mais j'écoute. Tu vas pas me dire non comme ça en tout cas. Mais je dis souvent que j'ai de la chance parce que aujourd'hui mes clientes me ressemblent et pour 95% d'entre elles deviennent des copines à l'issue. C'est-à-dire qu'à l'issue des accompagnements que je leur propose. À la fin, bah, on pourrait très bien aller boire des verres et refaire le monde. Et je trouve ça vraiment précieux. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est vraiment important de travailler en amont sur qui on est vraiment. Surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Surtout quand on devient maman aussi. Sur différents sujets comme ça. C'est vraiment important de travailler sur soi pour savoir ce qui est vraiment important pour nous. Quel positionnement on va mettre en place. Enfin, quel positionnement on a. Et quel type de personne, quelle est notre cliente idéale, pardon d'utiliser ce terme si marketé, mais qui est pourtant si important, parce que ça permet aussi du coup de se sentir plus en confiance et de mettre un peu de côté de temps en temps, même si on ne s'en sépare jamais selon moi, ce petit syndrome de l'imposteur, ou ce gros syndrome de l'imposteur.
Ce qui est hyper important, c'est de surtout avoir des valeurs communes, donc d'être clair avec les valeurs que tu veux transmettre à ce moment-là de ta vie. Donc t'as clientèle, on va dire, évolue avec toi aussi. Hein, elle va évoluer avec toi. Donc, il faut accepter aussi les départs. Ça, c'est pas facile. Hein.
Non.
Hein, souvent, on a envie d'être aimé de tous. Ouais. Et on comprend pas parce qu'on met le cœur sur la table. Quoi. Hein, et c'est dur. Hein, de quand vraiment c'est une mission au fond de nous, hein, parce que bon, y en a, ils font pour avoir du, de l'argent, hein, puis c'est
bien
tout.
Sûr.
Mais je pense pas que ça soit ceux qui nous écoutent là. Mais en tout cas, ouais, faut accepter que les vibrations changent, nos fréquences changent en fur et à mesure du temps, et donc il se peut que oui, il y a des personnes qui partent de notre aussi en tant que follower ou cliente, et ils peuvent revenir aussi.
Ouais.
J'ai eu le cas hier.
D'accord.
Par exemple, j'étais très étonnée.
Quelqu'un qui est revenu vers toi.
Ouais. Hein, et mais c'est parce que je crois que les fréquences, à un moment donné, naturellement, hein, ça s'est pas fait genre non, pas du tout. Naturellement, il y a eu un retour comme ça, j'ai pas vu venir, et elle non plus, tu vois. Et tac, ah bah, hop, on se recontacte.
On est d'accord que ça se passe aussi dans la vie personnelle, ça. Si
ah bah
on
oui.
sort de l'entrepreneuriat, oui. ces oui. connexions amicales, puisque du coup là on va plus parler de clients, ça peut arriver aussi que. On se sépare de certaines personnes et qu'elles reviennent ou pas. Et finalement, c'est un peu le parallèle entre la vie pro et la vie perso. C'est que ce genre de situation arrive dans les deux.
Ok. C'est entreprendre, finalement, la vie d'entrepreneuse ou la vie en général. Enfin, on entreprend notre vie en chaque instant, en tout ce qu'on fait. Là, c'est ce qu'on parle d'activités qui vont sûrement nous rapporter de l'argent. Hein. Donc, il faut aussi travailler sur la notion d'argent.
Bien sûr. Dont on parle pas assez finalement, parce que c'est bien mignon, parce que certains aujourd'hui étalent leur chiffre d'affaires, à tort ou à raison d'ailleurs, peu importe, et vrai chiffre ou faux chiffre d'ailleurs, peu importe aussi. Mais il y a une relation à l'argent qu'on ne nous a pas appris au moment où on se lance dans l'entrepreneuriat, effectivement.
Prenez...
Ça, t'as ce genre de problème aussi
qui
reviennent
Ah oui, en général, les personnes sous-estiment énormément... Par exemple, elles vont demander très peu d'argent.
Ouais.
Très peu. Alors, c'est pas que c'est peu ou beaucoup. C'est plus, on sent que ça les met en difficulté. C'est là le problème. Si ça les met en difficulté, c'est qu'il faut changer quelque chose. Par exemple, bon, une personne qui fait des prestations très peu chères, mais c'est parce qu'elle a une retraite. Bon, bah, c'est tout. Enfin, tu vois, c'est juste, c'est comme ça, tu vois. Donc, par contre, oui, il faut oser avoir le prix qui nous vient spontanément à l'esprit. Ça, c'est ce que je... Tout ce qui vient à l'esprit spontanément avec le cœur, c'est OK. C'est tout ce qu'on met par-dessus, le jugement des autres et tout, qui nous désaxe. Voyez vraiment l'argent comme actuellement, pour la société dans laquelle on est, un moyen d'échange, c'est ce qu'on voit partout. C'est-à-dire que les gens, moi, je le vois comme ça, c'est... Les gens ne savent pas comment montrer leur gratitude et leur amour. Ils ont l'impression de rien pouvoir donner d'eux. Donc, ils donnent de l'argent. Et c'est ça, la valeur.
D'accord.
Tu vois ?
Ouais.
Ça, c'est comme ça, un peu, en ce moment. Il n'y a pas que ça. Hein, tu vois, je vais recevoir de l'argent, mais des fois, je ne reçois pas que ça. Ou d'ailleurs, je ne reçois pas d'argent. Mais je reçois tellement d'autres choses. Donc, il faut vraiment voir l'abondance en général. Et oui, à un moment donné, tu as besoin d'argent pour toi, pour pouvoir aussi chercher tes fruits et légumes, pour pouvoir manger.
Bien sûr.
Donc, c'est un moyen aussi. C'est une de forme d'amour. Alors, je ne dis pas qu'il faut aimer l'argent, mais c'est une forme de pouvoir donner d'échange à un moment donné dans la société dans laquelle on est. C'est parce que c'est incrusté dedans. Donc, voilà. Donc, OK, c'est normal de demander de l'argent. Voilà, c'est tout.
Je trouve ça intéressant cette notion de fixer son... Alors, j'ai pas noté comment tu l'as dit, mais fixer son prix...
En fonction de ce qui vient.
Parce que moi, du coup, j'ai pas du tout la même approche, évidemment. C'est-à-dire que pour moi, c'est un cumul de rentabilité. Un cumul aussi du fait d'assumer et d'être à l'aise avec le prix qu'on fixe. Si un prix est trop bas et qu'on se dit « j'ai un peu l'impression que c'est un peu bas », c'est que c'est pas le bon prix. On n'est pas à l'aise à dire son prix et qu'on a l'impression que franchement c'est beaucoup trop élevé et qu'on a un peu abusé, faut peut-être un petit peu le baisser. Et pour moi, il y a un mix de cette rentabilité, du prix où il faut être à l'aise et aussi du marché. Donc, et effectivement, je trouve ça super intéressant de se dire « Bon, ok, j'ai fini, on parlait de formation en ligne, j'ai fini ma formation en ligne. Quel est le prix qui me vient je sais pas, 427 euros. Pourquoi ce prix et ça peut être effectivement une très bonne base pour se dire, selon moi, est-ce que le temps que je passe dessus, la valeur que j'apporte, et est-ce que ce prix me convient et est-ce que je suis à l'aise avec ce prix-là. C'est intéressant, je trouve. Mais moi, je l'utiliserais, tu vois, en première étape, de se dire, OK, quel prix me vient d'abord? Et est-ce que ce prix qui me vient est valable sur mes propres critères que moi, je propose, tu vois.
Alors, je peux...
Ouais, je t'en prie.
Alors, il n'y a pas de bonne, mauvaise méthode. Tout est lié, tu vois, exactement. Là, tu viens de relier la méthode. Alors, si je prends du recul là-dessus, là, le chiffre qui me vient... Là, c'est vraiment pour écouter son intuition. Ouais. C'est hyper important. Si c'est la bonne intuition, en gros, ça sera rentable, ça sera juste pour toi, exactement ce dont tu as besoin pour toi maintenant. D'accord ?
D'accord.
Mais il faut être quand même sacrément bien aligné pour pouvoir faire ça.
Oui. Hein ?
Donc, il est clair qu'il y a un travail à faire sur l'argent et donc de voir si c'est rentable. Et tout ça, c'est un travail sur la notion d'argent que tu fais. Et on a tous, je connais peu de personnes qui n'ont pas ce recul sur l'argent. Et le travail que tu proposes, pour moi, je le sens, c'est que ça permet de dépasser des barrières, de réajuster en fonction de ce qui est important, de faire un travail là-dessus. Parce qu'il y a des personnes, ce sera peut-être démesuré, ils vont demander beaucoup d'argent. Combien de personnes, je vois beaucoup de coachs gagnent beaucoup d'argent avec 6 euros et tout.
C'est mon combat du moment.
T'es là, ok. Et puis t'as ceux qui, voilà, qui vont pas oser du tout faire des prix. Et donc là, oui, le premier est juste, mais moi j'ai dû travailler là-dessus aussi. Au début, on m'a dit, tu sais, oh, t'es docteur en neurosciences. Non, donc tu dois demander 120 euros par machin et même plus. Tu vois? Et ben, wow, alors j'essaie d'augmenter. Enfin bon, bref, tu vois, tout est juste. En fonction de chaque instant, tu adaptes ton prix. Le premier, si tu es bien aligné, il va remplir tous les cases que tu proposes, mais souvent, c'est difficile d'avoir ce recul-là. Et ça permet de faire un travail sur l'argent et aussi un travail sur la valeur de soi. Enfin,
ouais,
en fait, concrètement, ce processus-là, en tant qu'entrepreneur, nous fait grandir aussi là-dessus. Donc c'est tout à fait juste aussi d'avoir tous ces paramètres et ça va correspondre aussi aux personnes qui viennent te voir.
Effectivement. Merci beaucoup pour ton apport sur ce sujet, c'est très enrichissant. J'ai proposé à mes abonnés sur Instagram de te poser des questions sans dévoiler qui tu étais dans un premier temps, mais en dévoilant ton métier. Et j'ai pioché trois questions. Est-ce que tu es d'accord d'y répondre?
Allez.
Première question. J'ai toujours peur d'organiser des choses, alors je suppose que c'est des événements, et que personne ne s'inscrive. Comment est-ce que je peux faire pour dépasser ça?
Alors, toujours avec ma philosophie, moi, ce que je me dirais à moi,
ouais,
d'accord, ça m'arrive tout le temps, hein. Moi, c'est surtout, je me dis, si j'engage de l'argent pour louer des choses et que je ne peux pas le remplir, tu vois, moi, j'ai ça, par exemple, ça va être compliqué. Alors, j'en parlerai, je le dis très, très souvent, mais tout est juste. Donc, si tu as l'élan de le faire, tout sera fluide pour faire l'événement. Si tu n'as personne, c'est que il y a peut-être, tu devais apprendre à comment organiser un événement. Et tu vas peut-être le faire une autre fois. D'accord. Donc pour moi tout est juste. S'il y a des personnes à venir, il y a des personnes qui vont venir. Si elles ne viennent pas, c'est que tu as aussi à recevoir cette expérience là.
Donc c'est une expérience.
C'est une expérience de toute façon. Mais si t'es guidé à le faire, fais-le et fais confiance que ça se mettra en place. Si ça doit se mettre en place, c'est pas un échec de pas avoir beaucoup de monde. Et si tu dois avoir que 4 personnes alors que tu pensais 25, tu fais confiance que c'était parce que tu devais être totalement focus sur ces 4 personnes. C'est ce qui m'est arrivé aussi déjà. D'accord ? Et que tu ne pouvais pas être focus sur ces 4 personnes parce que tu ne pouvais pas gérer en fait 25.
Ok.
Voilà, pour moi, je vois ça comme ça. C'est qu'en fait, tu pensais 25 pour avoir, allez, peut-être plus d'argent, pour certaines personnes ça va être ça, ou pour le donner au maximum des personnes, ou parce que c'est la capacité de la salle. Oui, mais en fait, t'étais peut-être pas en énergie de pouvoir gérer 25 personnes en réalité. Donc de manière très juste, le plan divin, le plan intérieur, te dit, mais oui, mais Micheline, c'est 5 personnes. Et ces 5 personnes, tu auras donné vraiment ton énergie à ces 5 personnes-là.
Ok. Ok, Micheline. Merci pour cette bonne question, Micheline, alias Caro. Deuxième question. Moi, je n'ose pas, par peur du regard des autres. Toujours peur que l'on me juge. Alors, effectivement, il y a cette fameuse peur du jugement.
Bah oui.
Bah oui.
Alors, moi, déjà, de 1, les personnes qui te jugent ne t'aiment pas pour qui tu es. Donc, si tu prends des décisions qui correspondent à ton cœur, à qui tu veux être, eh bien, toutes les personnes qui t'aiment vont te regarder et vont t'encourager ou alors projeter leur peur sur toi. Ça arrive souvent. Hein, quand même. Mais dis-toi que ça leur appartient. Ils vont forcément comprendre à un moment donné, tu vois. Et en général, elles te laissent faire, hein, celles qui t'aiment. Mais bon, voilà, par exemple, la famille vont projeter des peurs et t'es liée à elles, donc quoi faire. Mais tu te préserves d'elles. D'abord, tu dis aux personnes qui t'aiment et tu oses. Et le regard des autres, donc ça permet aussi d'écarter quelque part les personnes qui sont dans le jugement, d'accord. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des personnes autour de moi qui me jugent, d'accord. Donc autant être toi-même, et je veux qu'on m'aime pour qui je suis aussi. Donc autant montrer qui tu es, comme ça tu auras des personnes qui vont autour de toi, qui vont t'aimer pour qui tu es. Mais si tu n'oses pas et que tu restes dans les lignes en fait qui ne te correspondent pas, on va dire le chemin, classique mais qui te correspond pas, par exemple tu veux rester dans le CDI parce qu'on te dit de rester dans le CDI, voilà l'exemple un peu bateau, bah tu vas attirer des personnes mais tu vas rester avec des personnes qui t'oppressent, qui veulent rester dans ce système de CDI eux aussi. Mais par contre si tu montres que tu veux être dans l'entrepreneuriat, like, tu vas dans notre partenariat, bah, ça va déjà un peu les challenger eux, ça va un peu les grandir.
C'est hein vrai.
Ils vont se poser peut-être des questions, tu seras peut-être un exemple pour eux, donc ose, même s'ils te jugent, et tu vas voir qui t'aime pour qui tu es. Et ça, c'est magnifique. Moi, je veux des personnes qui m'aiment pour qui je suis. Et ceux qui me jugent, bah, tant pis. C'est dur, hein, parce qu'on a envie d'être aimé de tous.
Ouais, mais ça fait du bien aussi de faire le tri, je trouve.
Bah oui. En fait, on s'allège.
On se sent plus libre, ouais, carrément. Ouais.
Et même si tu fais des erreurs, quelqu'un qui t'aime te regarde, ne te juge pas parce qu'on fait tous des erreurs. Et souvent, c'est simplement des petites ou des grandes rectifications à faire. Donc, ose, n'aie pas peur du jugement parce que tu te juges, tu vas rester dans l'énergie du jugement. Et c'est justement en sortant de ça que tu auras moins en moins la peur du jugement.
Il y a un bon exercice aussi que je trouve très intéressant sur ce sujet, c'est de se demander qui concrètement va mal te juger. Si on reprend l'exemple de Caroline, là, j'ai peur d'organiser quelque chose et que personne ne vienne. Ouais. Est-ce que tu es en mesure de personnifier les gens qui vont te juger? Et moi, je me dis, s'il y a, parce que j'avais fait l'exercice une fois précédemment, ouais. Et il y a eu une personne qui m'est apparue, mais une seule. C'est-à-dire que toutes les autres personnes, mes abonnés sur Instagram, etc., je ne me suis pas sentie mal à l'aise sur ce sujet-là. Mais il y a une personne où je me suis dit, ah, bah tiens, elle m'apparaît, peut-être qu'elle a un aspect, un côté peut-être un peu... Peut-être qu'il faudrait que je la mette un peu plus de côté dans ma vie.
Oui.
Et je trouve super intéressant de faire l'exercice et de se demander qui concrètement va aller te juger. Est-ce que tu es en mesure de donner des prénoms sur ce genre-là?
Mais c'est super ce que tu dis. Je l'ai fait il y a longtemps pour moi. Et je me suis rendu compte que c'était même des... Je me souviens qu'il y avait deux personnes. C'est parce qu'on m'avait dit quelque chose en soirée qui m'avait fait du mal.
Ouais.
Et une autre parce que je sais que c'est une personne qui est très gentille, mais qui est quand même une commère.
Ouais.
Un peu. Une commère gentille, mais bon. Donc je me suis dit que je peux être jugée. Et c'est vrai qu'on va globaliser la peur du jugement, le regard des autres, mais en fait c'est 1, 2, 3
c'est clair.
Donc en fait oui, si tu le actes, tu en prends conscience comme tu viens de faire, qui est très juste ce que tu dis, tu lâches prise, tu dis voilà, mais j'ai pas enfin en fait je vis pas avec elle. Et si ça les bouscule, si elles jugent, ben ça permet de t'en écarter aussi.
Ouais.
Et ça les challenge eux aussi. C'est triste qu'ils jugent. Enfin, c'est triste d'être dans le jugement.
Oui, ça doit être fatigant.
Mais on ne juge pas non plus leur posture d'être dans le jugement. Ils doivent apprendre.
Ça, c'est dur.
Ouais, faut pas être dans le jugement. Il y a pas de non, de oui, mais de
c'est ça.
Ça, c'est, j'aime ou j'aime pas au quotidien.
Ouais.
Donc simplement, on faut faire confiance que.
Ok. Troisième question. Un exercice à nous confier pour nous sentir plus badass et plus sûre de nous, Aude. J'adore cette question. Dès que j'ai lu, je me suis dit, ah non, mais alors celle-là, il faut absolument que je la pose à Aude, elle est géniale.
Qu'est-ce que t'attends de moi de cette question ?
Ah, écoute, j'ai pas de détails. Je pense, quoi qu'il en soit, que les gens qui vont t'écouter au moment où tu vas nous confier cet exercice...
Quand j'entends ça, plus badass, ça fait comme...
C'est plus sûr de nous, quoi. Plus, tu parlais de Wonder Woman, bah voilà. Plus,
voilà.
Peut-être avec moins cette peur du jugement, avec moins cette peur de ne pas sauter le pas.
Non, concrètement, je comprends, l'énergie, c'est de se sentir confiante.
Ancrée.
Hein? Donc, au démarrage, ce qui aide quand même... c'est les outils, de matérialiser quelque chose. Après, on s'en détache au fur et à mesure. Mais c'est vrai que de concrétiser quelque chose, donc par exemple, c'est d'avoir, il ne faut pas dévaliser les magasins, mais avoir une tenue qui te fait sentir badass.
Ou un accessoire.
Ou, par exemple, moi, je sais que quand je portais du rouge, ça me portait. J'avais comme une énergie de plus d'entreprendre, tu vois ?
D'accord.
À l'époque. Je ressens moins, mais là, c'était à l'époque, je me souviens très bien, mes premières années, c'était ça. C'était, je porte du rouge, tac. Et, ou rouge à lèvres.
À fond.
C'était, le rouge à lèvres, ça, c'était l'outil qui m'a aidée au début, enfin, les premières années. Là, maintenant, ça me parle plus, tu vois, maintenant, aujourd'hui, parce que j'en ai plus besoin. Je me suis détachée de ça. C'est d'ailleurs pas pour toute votre vie, mais vous dites, des lunettes ou quelque chose pour avoir un support qui vous t'as l'impression d'être protégé par ça, en fait. Donc, ça peut être une tenue de guerrière, admettons. Tu te dis, ouais, ça, c'est ma tenue, tac. Ou mon coup de rouge à lèvres. Sachant que, ça reste des actes d'apparence, mais ça permet d'un peu se renforcer son énergie avec soutien. Et jusqu'au moment où ça sera plus...
Ouais, je suis d'accord, ça n'a rien de superficiel pour le coup, parce que j'étais justement en train de me poser la question, et moi c'est mes talons, notamment des bottines dorées à talons, histoire de 1, et j'ai trois colliers qui me portent et qui me protègent, tu vois, voilà. Trois colliers importants qui n'ont pas du tout la même signification, qui ne viennent pas du tout des mêmes créatrices, etc. Et sur le coup, je me dis, rouge à lèvres aussi. Et je me dis, c'est super superficiel. Mais en fait, absolument pas, parce que peu importe au final, puisque ça me permet effectivement de me porter et de me sentir plus forte, effectivement.
Tu dois avoir dans ton idée aussi de ne pas être attachée émotionnellement à ça. Après, ça devient qu'est-ce que je fais sans, tu vois.
Oui, si je l'ai pas, je vais être naze.
Vraiment, tu dis pour l'instant c'est ça, mais je peux faire sans. Mais si je peux l'utiliser, tu te détaches, tu vois, pas être trop attaché émotionnellement.
J'ai l'habitude, Aude, de poser des questions récurrentes à mes invités. Donc je vais te les proposer, tu peux donner juste le mot ou broder si tu as envie de broder et d'apporter tes lumières là-dessus. Est-ce que tu es prête ?
Oui.
Ton mantra ?
Tout est juste.
L'accessoire indispensable que tu as toujours sur toi ?
Là, c'est justement, il y a l'histoire du détachement, que je travaille énormément. Mais je vais te dire soit une coquille Saint-Jacques, ou soit une fleur de vie plastifiée ou en feuilles. Voilà.
Qui est devant nous ?
Ouais.
Ok.
Oui, elle est là. Si je peux avoir un truc qui me permet de purifier dans les endroits dans lesquels je ne suis pas, ça me permet de rapidement m'ancrer.
Ok. L'objet le plus précieux chez toi et dont tu ne te sépareras jamais.
Encore une fois, donc t'as compris qu'en gros, j'ai fait un gros travail là-dessus.
Et puis t'es entre la France et le Népal, reprécisons-le.
Oui, je suis entre la France et le Népal. Forcément, j'ai quand même des attaches émotionnelles, mais je me rends compte que je peux faire sans. Donc, ma première idée, quand même, c'est mon cœur, mais ça fait vraiment cliché de coach
développement personnel. Non, parce que tu vas nous expliquer pourquoi.
Oui, ouais. Alors, mais parce qu'en fait, mon chez-moi, c'est moi. J'ai nulle part où aller, où je me dis, je suis propriétaire. Mais par contre, je suis propriétaire de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Et là, je peux pas partir sans mon cœur. Parce qu'il m'a aidée énormément et je l'ai mis en doute beaucoup, beaucoup. Mais il a toujours été là. Je sais pas pourquoi ça m'émeut.
Ça te bouleverse.
Et c'est celui qui m'a fait sauter les plus grands pas.
Merci.
Donc voilà, non mais c'est sincère quand je dis le mot.
Non, mais ça se voit.
Enfin, c'est pas pour dire ouais. De faire...
De toute façon, tout le monde a bien compris que t'es particulièrement honnête. Et on sent bien que ça te touche quand tu le dis. Donc, je suis en train de vivre un moment incroyable. Hein. Vous n'avez pas la chance d'avoir Aude en face de moi, mais vous entendez au son de sa voix qu'on vit vraiment un super beau moment. Ton activité la plus réconfortante ?
Alors, réconfortante, donc ça ne veut pas dire pas préférée, mais c'est celle qui me donne du confort, qui me réconforte quand j'en ai besoin, ou qui me fait du bien, c'est boire un café.
D'accord.
Préparer un café, boire un café. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte que j'allais en boire. Alors déjà, pour échauffer ma gorge le matin, je sens que ça me donne un peu de force. Mais je pourrais prendre un thé. Hein. Mais par exemple, quand je suis dans un univers un peu plus hostile pour moi, pour mon énergie, j'aurais tendance à boire plus de café.
C'est la question la plus difficile. Ok ? Parce que les autres m'ont dit que c'était la plus difficile.
Ouais.
2-3 personnages de fiction ou personnes célèbres qui te ressemblent. Et pourquoi ? Alors, qui te ressemblent dans le sens où c'est pas ton incarnation en version personnage de fiction, mais qui ont des traits de personnalité ou des passions, ou voilà, quelque chose qui te ressemble.
D'accord. Donc je me suis jamais vraiment reconnue en quelqu'un quand j'ai regardé quoi que ce soit autour de moi, enfin, par exemple, série, etc. Par contre, j'ai quand même des... Alors, c'était d'abord des inspirations, mais je pense que c'était des parts de moi qui ont envie de s'exprimer et que je pense que je développe de plus en plus. Donc, quand même, je suis obligée de dire Wonder Woman. Mmh. Alors, j'en fais pas une idole, hein,
ouais.
Mais son côté guerrière et d'agir instinctivement pour aider. Alors, je suis pas en mode justice,
non, non,
etc.
Non, absolument pas. Non, mais on comprend bien le parallèle.
Ce côté-là... Quand même, je pense que c'est en développement personnel. Après, adolescente, je regardais mon frère... Enfin, non, pas adolescente, avant même. Je regardais mon frère jouer à Tomb Raider. Donc...
Ça, c'est beaucoup plus improbable, déjà.
Il fut un temps où je faisais le carnaval de Dunkerque et j'étais déguisée en ça. Donc là, bon, c'est probablement parce que j'avais besoin de me sentir peut-être féminine, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais ce que j'aimais. Et c'était l'aventure. Et de voir tous ces paysages à travers les jeux vidéo. Ah. Parce que je ne voyageais pas beaucoup avec mes parents. Enfin, ouais. Qu'en France. Ça me faisait voyager. Et c'est fou parce qu'en fait, j'ai redécouvert, par exemple, tout l'univers au Cambodge de ce que j'ai vu dans le film de Tomb Raider. Donc, j'ai pas envie de devenir Tomb Raider, mais fouiner pour avoir les ruines, pour voir ce qui se passe, ça, j'adore. Et c'est ce que je fais d'ailleurs chez les gens. Tu vois, regarder les symboles et sentir l'énergie, ça, c'est j'adore. Et c'est ce qu'elle fait, en fait, Tomb Raider, je me suis rendu compte.
Ouais.
Donc, et voyager, et côté un peu voir... l'envers. Okay. Ça, j'adore. Et je me suis rendu compte que j'étais en fait profondément comme ça, parce que je voyage et je vais à des endroits qui m'inspirent et qui révèlent des secrets à l'intérieur de nous. Et l'autre, alors là, je vais surprendre, mais entre la cathédrale de Chartres et ce que je vais vous dire, vous allez dire, mais vraiment, c'est une nonne, mais... c'est Sainte-Thérèse de Lisieux.
Ok. Alors c'est tout le paradoxe de Aude en fait. Là on a l'exemple concret. Elle nous parle de Tomb Raider et de Sainte Thérèse de Lisieux. Raconte-nous donc dans cette belle Normandie pourquoi Sainte Thérèse de Lisieux.
Alors Sainte Thérèse de Lisieux. Alors elle quand même. Mes parents, enfin ma famille l'a pris pour les examens parce qu'il y a une chapelle dans mon village.
Ouais.
Mais elle m'évoque la discrétion parce que je suis très discrète. Hein. Mmh. Très très discrète. Mmh. La discrétion et le dévouement, ça je l'ai découvert chez moi aussi. Un dévouement naturel que je ne montre pas, mais j'ai un dévouement en général pour ce qui m'entoure. Je me suis rendu compte. Et c'est vrai qu'en regardant un peu son histoire, je dis ça m'a fait quelque chose. Tu vois. Et elle fait les choses un peu malgré elle, elle est devenue connue. Elle savait pas. En fait, elle a écrit tout un livre pour une personne qui lui avait demandé d'écrire. Et tu vois, ce livre, maintenant, il peut être lu par tout le monde. et elle a même été canonisée après. Mais en tout cas, elle est, enfin, son énergie de discrétion et de dévotion, ouais, je pense que c'est une part de moi. La discrétion, on la voit, la dévotion, peut-être pas, mais...
Ça se traduit quand même pas mal à travers ton travail.
Ouais,
c'est le côté dévouement, t'as envie d'aider les autres à se sentir mieux.
Ouais, j'ai la foi.
C'est une forme de dévotion.
Ouais. J'ai la foi en général. Ouais. Ça me met à
et ta propre foi, mais... pour le coup.
Ouais. Ma foi en général, je parle pas de religion. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est ta propre foi que t'as construit.
Pour moi, c'est des maîtres sages, tu vois, des personnes comme ça. C'est pas, il y a pas de connotation, tu vois.
Ouais.
Forcément, elle avait une connotation, hein. Mais...
Bien sûr. Ouais.
Mais moi, c'est plutôt le côté où comment elle a vécu sa vie.
Ok.
Ouais.
C'est super intéressant.
Ouais.
et ça te ressemble, donc c'est très chou, très shoot.
Ah, je me sens pas là l'une l'autre, mais il y a des petits bouts.
Ouais, des tout à fait. L'étape la plus difficile quand tu te lances dans l'entrepreneuriat.
Présenter son projet.
Ok.
Pour moi, ouais, ça a été ça. Et ça l'est un peu encore le cas. Difficile de se définir et de vouloir tout dire ce qu'on est.
Alors qu'on te demande une fois par jour, tu fais quoi dans la vie?
Ouais, je rêve vraiment de dire juste...
Je suis Aude.
Aude, c'est tout, voilà. Mais bon, en même temps, je suis obligée d'expliquer quand même. On est obligée d'expliquer, sinon...
Bah, parce qu'on a envie de savoir aussi.
Savoir. Oui, et puis, bon, voilà, qu'est-ce que je fais, quoi. Enfin, on est obligée. Mais ouais, ça a été toujours très difficile. Et à chaque fois, j'essaie de le faire et ça change tout le temps un peu. Les mots changent. Ça, c'est dur. Et puis, d'oser le dire, forcément. Ça veut dire se présenter, ça veut dire de le dire.
Il y a un exercice très sympa à faire. Je sais pas si t'as des enfants autour de toi qui l'ont à partir de, 5 ans et un peu plus... C'est s'ils te connaissent, de leur demander quel est, selon eux, ton travail. C'est super intéressant parce que ça permet de mettre de côté tous les mots que nous, on utilise en tant que professionnels, mais qui ne parlent pas forcément au grand public, et de rendre l'exercice plus facile pour après peut-être éventuellement repiocher. Moi, j'ai posé la question récemment à mon fils parce que je lui avais posé la question quand j'étais dans le salariat et sa réponse ne m'avait pas du tout, du tout plu. Ça a été d'ailleurs un des déclics. Enfin, j'étais pas du tout fière, en fait, de lui expliquer ce que je faisais et que lui m'explique ce que je faisais. Et là, récemment, je lui ai demandé et il m'a dit, t'aides les femmes chefs à être plus heureuses et à aller au travail avec le sourire.
Wow.
Et je dis, c'est vachement plus classe que, ce que moi je dis. Et je me dis, effectivement, il y a peut-être des choses à piocher dans les réponses si tu as des enfants autour de toi. Ou si vous vous retrouvez, si vous avez ce petit problème de mettre des mots sur votre activité, parce qu'il faut, on doit avoir une phrase
exceptionnelle,
prête.
Son idée, elle est super.
C'est très mignon. Et du coup, après, on peut piocher dans l'idée de cet enfant et reformuler tout ça.
C'est des mots simples qui parlent à tout
tellement,
le monde.
Tellement.
C'est pour ça que j'ai eu ça, cette expérience-là. Mais qu'est-ce qu'il avait dit, mon neveu? Je pense qu'il avait dit que j'aidais les gens à être mieux. Je pense qu'il avait dit un truc plus simple. Et autre chose qui m'avait surpris et qui était bien, mais j'ai oublié. Tu vois.
Ouais.
J'ai demandé.
Et après, il m'a dit qu'il avait oublié de dire que c'était à être plus connu et avoir plus de sous.
Bon,
donc il y a tout et rien à prendre. Mais c'est très vrai, en fait, au final. Tu vois, c'est juste qu'on ne l'assume pas. Mais c'est très vrai. Donc, merci, Augustin, si tu écoutes cet épisode. Car je pense que tu l'écouteras. Ta plus grande fierté côté pro et un fail à nous partager?
Je vais dire... plus grande fierté, c'est accéder à une vie épanouissante. Parce que je me transforme en même temps que je fais mes trucs, que je fais mes événements. Enfin, d'abord, je mature et après, je délivre quelque chose. Donc, accéder à une vie épanouissante qui m'a fait voyager, qui m'a fait oser vraiment sortir d'une grande zone de confort énorme. Et de quitter Coach My Mind à Marc-en-Barreul aussi. Et en one-to-one. Et mon fail, alors je ne vois pas la notion d'échec, mais en fait, on va dire...
T'as le droit de dire que t'as pas l'impression d'avoir vécu des fails.
Si, j'ai eu plein de sensations, souvent. En fait, concrètement, je pense que tous les jours, j'ai l'impression que j'échoue, j'ai l'impression de ne pas faire assez. Ça, c'est clair, ça, c'est mon truc que j'ai tout le temps de dire, non mais Aude, tu fais ce que tu peux, chaque instant, c'est tout. Enfin, c'est tout, tu ne peux pas inventer des trucs. Donc ça, quand même, j'ai quand même une sensation avec laquelle je cohabite et que j'essaie de rééduquer. Mais on va dire le fait, voilà, celui qui me vient, parce que aussi, je pense qu'on est en train de parler de ça, c'est j'avais fait tout un programme quand même de formation pour les entrepreneurs, pour aider à se développer. Et je crois que l'offre a été probablement trop peut-être trop intérieure, spirituelle, je sais pas. Pourtant, dans le texte, c'était pas marqué de spiritualité, mais on voulait plutôt le côté rationnel probablement. Mais ça a pas vu le jour du tout. Donc personne ne le sait, presque, ouais. Tu vois. Mais ça, c'était il y a quelques temps, et c'était, ouais, peut-être que ça, je me dis des fois, est-ce que ça aurait pu être bien que j'aide des entrepreneurs.
Est-ce que c'est pas sorti un peu tôt? Parce qu'en fait, je sais pas, je me pose la question parce que avant le confinement et après le confinement, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Mais... Et après le confinement, on prend beaucoup plus soin de nous et on apprend beaucoup plus à nous connaître.
Mais tu sais quoi, à cette époque-là, maintenant je le sais, hein, tu vois, ça me correspondait à moi d'avant, mais j'ai très vite évolué et j'ai très vite quitté cet état d'esprit que j'avais au moment de la construction de cette formation-là.
D'accord. Donc t'étais plus alignée avec toi.
En fait, le moi, le format, l'intérieur, oui, tu vois, je pense que je reprendrai beaucoup de choses, mais le format ne correspondait pas à qui j'étais vraiment, vraiment.
D'accord.
Donc là, aujourd'hui, voilà, je pense que je serais plus performante. Mais c'est surtout le format qui ne correspondait pas à moi, mais c'était tendance.
Ouais, et c'est là le gros risque.
Et c'est là le risque. Mmh. C'est que tu veux être tendance, par exemple, tu veux même faire des designs, des choses qui sont tendance, et en fait, on se perd.
Ouais. Donc, et on ne met plus son soi à l'intérieur.
Okay. Ouais.
L'aspect sur lequel se démarque ton entreprise. Je te challenge.
Pardon, je fais du bruit avec mon collier. Oui, alors... je pense que... alors, bizarrement, c'est pas sur quoi j'ai envie qu'on me démarque. Mais souvent, quand je dis que je suis docteur en neurosciences, ça fait le poids. Mais c'est, je ne le dis presque jamais. Personne ne le sait, très peu. Alors des fois je le dis parce qu'on me dit, il faudrait que tu le dises. Mais c'est, je trouve que c'est pas ça qui me permet d'être la femme que je suis. Enfin,
si, tout de même.
Ça me permet d'être la femme que je suis. Mais je veux pas que ça bloque d'autres personnes en se disant, oh là, un doctorat, moi j'ai pas de doctorat. Et je veux pas.
Quelle personne?
Des personnes qui se comparent, qui sont dans le bien-être par exemple.
Ah d'accord.
Tout le monde est capable, tu vois. On n'a pas besoin d'un doctorat pour...
Ouais. Et tu penses que certaines personnes, en découvrant que tu as un doctorat en neurosciences, se diraient, je me lance pas, du coup, sur l'accompagnement des gens?
Ah, je sais pas, mais je vois la réaction de certains. Je vois bien que ça apporte un jugement sur moi. En fait. Ils changent de perception sur moi.
Ouais. Mais tu bosses pas pour eux.
Et ils vont me dire... Alors... Non.
Ce sera jamais tes clients.
Donc, en fait, je veux juste dire que, en gros, le CV, le plus important, c'est l'être.
Ouais.
En gros, c'est ça, moi, ce que je veux dire. Je sais pas si j'étais claire, en fait. Mais en gros, le CV, soyez à l'aise avec le CV, n'importe quel contenu dedans. Moi, c'est parce que des fois, quand je dis docteur, quand je suis face à des personnes rationnelles, ça va les rassurer, ils vont faire un peu le pas et venir me voir. Mais je peux pas, parfois, tout... Je m'adapte à la personnalité. Et des personnes qui se jugent plus spirituelles et vont se dire « Ah, elle a besoin de se conforter avec un doctorat pour rationaliser les choses. » Alors qu'en fait, moi, c'est juste une partie de moi.
Est-ce que j'ai le droit de dire que ce qui te démarque, pour moi, c'est pas ça, mais c'est ta personnalité, ton sourire, ton regard, ta bienveillance, tout ça?
Alors, ce qu'on me dit, c'est que je suis apaisante.
Ouais, de ouf.
Souriante.
De ouf.
Et je sais que même quand je parle pas ou juste quand je parle, ça fait déjà un effet.
On parlait de la puissance du regard avant de commencer l'enregistrement de ce podcast et effectivement, c'est très vrai. Avant-dernière question, le conseil que tu voudrais transmettre à toutes les femmes entrepreneurs?
Ne absolument pas dénigrer les idées intuitives qui viennent dans l'esprit. C'est accueillir tout ce qui vient à l'esprit spontanément, donc n'hésitez pas par exemple à écrire ce qui vient. Et quand il y a l'enthousiasme avec, et ça, faut le mettre en œuvre. Il faut garder ça en soi. Soit ça va se mettre en œuvre dans longtemps, ou soit maintenant, mais c'est le après qui va venir éteindre son cœur. Donc, écouter son cœur, évidemment, mais ça vient par l'écran de l'esprit. L'idée vient dans ta tête. Donc, parfois, c'est très simple, tu dis non, c'est trop simple. Parfois, c'est trop farfelu, tu dis non, c'est trop farfelu. Non, tu suis.
Okay.
Parce qu'en fait, c'est ça.
Dernière question, la femme entrepreneur que je devrais interviewer dans ce podcast.
Alors, j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, tu vois. Mais alors, je vais te dire celle qui me voilà, que je, voilà, que je connais et que je, qui me porte. Alors, il y en a une, tu vas pas être étonnée, hein, mais il y en a une qui a vraiment une grande énergie entrepreneuriale en elle. Elle ne se rend pas compte. Je lui ai dit qu'elle pourrait très, très bien aider les entrepreneurs. C'est Amélie Happy, qui a une grande, une grande énergie pour ça et qui fait croire en toi énormément quand tu lui parles de ton projet. Donc ça, c'est énorme.
Ok.
Et je peux rajouter une quand
Bien
même.
Sûr.
Une qui aide pour le coup aussi les entrepreneurs, c'est Charlotte de chez Compressé.
Évidemment.
Je peux pas passer.
Coucou Charlotte, à je sais que tu d'elle. Vas nous écouter.
Voilà.
Je sais, on t'embrasse. Bon bah écoute, oui, oui, je trouve que ces deux choix sont très beaux et je comprends pourquoi tu voulais rajouter un choix aussi. Bon bah génial. Salut Amélie, salut Charlotte si vous nous écoutez.
Bisous bisous, on vous embrasse. Vous êtes merveilleuse.
C'est vrai. On va arrêter là. Oui. Merci, merci, merci pour tout ça. Alors, non seulement parce que tu t'es livrée à nous et c'est pas quelque chose que t'as l'habitude de faire. Donc ça, je suis hyper touchée et assez, je me sens privilégiée d'avoir vécu ce moment avec toi. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent aussi. Merci aussi pour ces leçons de vie que tu viens de nous lancer, là. Je pense qu'on a matière à réfléchir, à se poser... à faire le point sur tout ce que tu nous as dit et je trouve ça vraiment très généreux de ta part. Et merci de m'avoir accueillie dans ce bel univers et avec toute la douceur et la bienveillance qui te caractérise, entre autres. Et puis, est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, s'il te plaît ?
Oui, sur Instagram, principalement. Donc, coachmymind-bas, by-bas. Aude. Et moi, mon site devrait plus trop tarder, coachmymind.fr.
Et la guidance le dimanche à 11h.
Voilà, voilà, voilà.
Ouais. Génial. Merci beaucoup, Aude.
Merci, merci.
À très vite. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un avis ou un commentaire. Et tu peux bien sûr le relayer sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que la production de podcast, c'est autant de kiff que de temps. Alors n'hésite pas à m'encourager à en faire autant avec toutes les émissions que tu aimes. À très vite et la bise !